son histoire. Nos angoisses et nos secrets s'y inscrivent. Peau morte ou hypersensible, notre cartographie intérieure se trouve là. Et mon invité est un lecteur bien particulier. Bonjour Gérald Tenenbaum.
Bonjour Caroline.
Je suis très heureuse de vous recevoir pour ce 7e roman, qui est un roman totalement original, qui s'appelle Peau vive et qui est publié dans une petite et future grande maison d'édition, La Grande Ourse. Et je trouve que c'est un livre à la fois étrange, poétique, singulier, avec une très belle langue et autour de chaque fois d'une approche originale. Alors, il faut dire quand même que vous êtes écrivain et mathématicien. Alors,
oui,
est-ce que le mathématique vous donne cette singularité dans l'écriture? Je ne sais pas.
Je ne sais pas. En tout cas, peut-être du côté de la rigueur de la construction de romanesque. C'est-à-dire que j'essaye de construire mes livres toujours sur un canevas extrêmement précis, dont je peux me départir ensuite dans l'écriture. Mais tout de même, je sais toujours où je suis, même par rapport à ce canevas.
D'accord. Vous savez où vous allez arriver?
Oui. Je sais où je veux arriver. Oui, tout à fait. Oui, je sais où je veux arriver. Et c'est vrai que, en même temps, il y a toujours des surprises dans l'écriture elle-même. Mais c'est vrai que j'essaye de. Disons, il y a des correspondances dans le texte, il y a des personnages qui se répondent, il y a une structure qui est relativement. Enfin, qui est très précise.
Oui, on le sent. Alors, il faut dire, votre héroïne, Ève. Elle est très particulière parce que, est-ce qu'on peut appeler ça une maladie? Je ne crois pas. Elle a une telle hypersensibilité, je vais lire un extrait de votre livre. Le contact pour Ève, un sens interdit. Il y a des peaux impassibles, des peaux mortes ou réfractaires, comme on dit des briques. Celle d'Ève est l'exact opposé. Une peau si sensible qu'à rien la brûle, une peau incandescente. Un souffle suffit à l'embraser. Elle reçoit tous les signaux à la fois. La charge électrique est en permanence à la limite de la rupture. Tout frôlement peut déclencher le court-circuit. Une simple pression et des courants cuisants prennent naissance, diffusent sur le champ, l'enlacent et la saignent de lignes de fuite scintillantes. Dans leur sillage, seules subsistent des plaies ouvertes aux bords calcinés. Est-ce que ça existe ou c'est une métaphore
poétique ?
Oui,
ça existe. La phobie du toucher existe. Ce n'est pas l'une des phobies les plus graves. J'ai discuté avec des psychiatres qui me disent que c'est une phobie dont on connaît souvent mal l'origine et qui peut aussi disparaître aussi brutalement qu'elle apparaît.
On a le sentiment qu'on vous brûle.
Voilà, on a le sentiment qu'on a peur du contact avec les autres êtres humains. Et en général, c'est dirigé uniquement vers les autres. Et donc, c'est un problème parce que la peau, c'est à la fois ce qui vous sépare des autres et ce qui vous rapproche des autres.
Oui.
Donc, cette phobie, cette peur du contact est aussi, au fond, une peur d'être englobé par l'autre, d'être absorbé par l'autre. Et c'est effectivement ce qui se passe pour mon héroïne qui a une empathie pour son père qui est lui-même un enfant de déporté et qui a lui-même des problèmes de peau d'eczéma etc. Et donc, elle se déprend de cette empathie trop forte et du coup ce problème surgit à un moment particulier de sa vie.
Oui, lorsque... et de l'histoire. Alors, on va quand même peut-être un petit peu plus la situer. Déjà dans sa famille, donc, déjà, elle est aussi une scientifique. Hein. Elle travaille comme biologiste.
Oui.
Comme
par hasard, elle travaille sur l'inhibition de contact, qui est une des spécificités des cellules cancéreuses. Enfin, la non-inhibition du contact est une particularité des cellules cancéreuses, qui elle, ne s'arrête pas lorsqu'elle voit des cellules qui sont d'une nature différente. Une cellule normale va s'arrêter et puis les cellules cancéreuses, elles continuent à proliférer.
Oui. Alors, c'est vrai qu'elle a un père qu'elle adore,
oui.
Qui lui-même, alors c'est un ancien clandestin, hein, il est un homme très courageux et en même temps, alors, il s'occupe de fourrure et de peau.
oui,
peau morte.
Voilà,
voit chez lui,
absolument, hein, de peau morte. Oui,
de
oui,
peau
oui,
morte.
Oui, oui,
oui. Et c'est vrai qu'elle a, elle est très très proche de lui. Il a cet eczéma qu'il brûle par moment. Et d'ailleurs, la sœur, Irène, va dire c'est l'eczéma maison.
Oui,
la maman.
C'est elle ça, c'est familial.
C'est familial,
oui,
cette
c'est la marque de fabrique.
Et en même temps, il y a un moment où elle va être, on va le dire pourquoi, elle va être dans le coma. Et le père est là, et vous écrivez, il ferme les yeux. Imperceptiblement, l'odeur du savon de toilette cède la place à celle native de la peau d'Ève. Entre père et fille, les effluves corporelles ne font pas obstacle. Ils tapissent simplement l'atmosphère de fleurs surannées, tel un papier peint oublié qui ressurgirait d'une vieille photographie. C'est beau, ça. Ils sont totalement liés par
oui,
l'odeur.
Oui, c'est vrai.
Par
ils sont liés de manière charnelle.
De manière charnelle.
On peut le dire, tout à fait.
Oui, oui, alors, oui. La mère, elle est plus lointaine. Hein. Elle vit à Bruxelles, elle a divorcé. Mais elle va quand même lui apporter certaines clés, quand même. Hein. Et donc, dans cet univers-là, il y a quand même un homme, on reviendra aussi à lui, que je trouve merveilleux. Vous dites d'ailleurs que c'est une sorte de Pénélope au masculin, c'est André, qu'il adore depuis toujours.
Oui, qui est son ami d'enfance et son amour d'enfance, et qui n'envisage pas de faire sa vie avec une autre femme.
Qu'elle.
Voilà, qu'elle. Seulement elle est pour le moment inaccessible et il attend.
Et elle sent aussi quand même qu'il y a une sorte d'osmose entre eux. Il y a un moment où ils sont ensemble en voiture, je crois, où ils marchent en tout cas. Mm-hmm. Et elle dit qu'il y a une indicible osmose qui se crée naturellement. Leurs corps parallèles se conjuguent d'instinct. Il y a une harmonie entre eux.
C'est vrai que souvent on voit l'entente d'un couple à la manière dont ils marchent ensemble.
Oui.
Il y a des couples qui marchent et qui se heurtent et qui marchent à l'amble, ils sont jamais ensemble. Et puis il y en a d'autres où voilà, ça se passe naturellement bien et il y a une harmonie qui se dégage dans leur propre démarche.
Alors il y a dans votre livre un mystère profond, une étrangeté. Presque, c'est pas du surnaturel, c'est au bord en tout cas.
Tout à fait. Hein,
au bord du surnaturel. Et d'ailleurs, le mystère au fond restera jusqu'au bout. Il y a des choses qui ne seront pas élucidées, c'est pas grave. Hein, on ne sait jamais dans la
bien
vie.
Bien sûr, oui.
Au fond, les causes, les effets, il y a beaucoup de choses qui vous échappent dans la vie. Et elle a le sentiment d'avoir des apparitions d'un homme qui la croise, qui va l'aider. Qui est là partout, même quand elle va partir à Berlin, c'est une partie magnifique de votre livre, c'est une sorte d'ange étrange. Et son père, d'ailleurs, va lui révéler, parce qu'elle a aussi une marque étrange sur le bras, elle a trois grains de beauté qui forment un triangle.
Tout à fait.
Ouais. Et j'aimerais vous raconter l'histoire que son père va lui raconter quand elle est dans le coma, je crois, quand elle est tout bébé. Il l'a dans les bras, il est devant la synagogue, il n'est pas religieux du tout.
Voilà.
Mais j'aimerais vous raconter cette histoire.
Oui, parce que son père est pour le coup un écorché vif. Il a perdu ses parents dans le génocide. C'est une douleur qui est insupportable et il en veut à Dieu, il en veut à la religion, il en veut. Et donc chaque année au moment de Yom Kippour, il vient devant la synagogue et puis il n'entre pas. Et il est là et puis quand les gens passent et qu'on lui demande s'il n'entre pas, un seul regard suffit pour les faire taire parce que, je veux dire, il les terrorise. Et un jour, donc Ève est toute petite, ça se passe en 1955, et elle est tout bébé, elle est dans ses bras, alors parce que lui, il estime que sa fille, elle doit assumer ça avec lui, et donc
ouais.
elle est là dans ses bras. Et il est devant la synagogue, et puis un étranger lui parle en yiddish, un beau yiddish lituanien.
Très belle voix, cette belle voix d'ailleurs va revenir.
Voilà, une voix bien posée, une voix claire, et il lui dit « Écoute, rentre là-dedans, t'as quelque chose à crier, même en silence, va le crier, t'as pas de chapeau, ça fait rien, je te prête mon chapeau, et puis ta fille, laisse-la moi, et rentre là-dedans, et tu as quelque chose à... » Et il le fait. Et il le fait, il rentre et il va incendier des chandelles en lui, des lumières dans la synagogue, et puis il revient. Et l'homme l'a attendu, et à ce moment-là, il remarque effectivement que Ève a ses trois grains de beauté sur le bras. Et ensuite, il en conçoit une culpabilité terrible, parce qu'il dit « Comment est-ce que j'ai pu laisser ma fille à un étranger, même quelques minutes ?» Alors, voilà. Et donc, il y a quelque chose de magique qui s'est produit. Et autour du coma d'Ève, y a beaucoup de choses qui se font, des gestes qui n'étaient plus permis, qui sont de nouveau permis, comme bien sûr de la toucher, et puis des paroles qui n'ont jamais pu être dites. Ça, le père n'a jamais pu en parler de cette histoire-là. Donc il commence, il parle d'autres choses, il parle du Grand Bleu et d'un film sur lequel ils sont un peu disputés. Et puis finalement, il lâche le morceau et il raconte cette histoire à Ève qui est endormie, mais qui entend quand même.
Voilà. Alors, ce coma, il est venu à cause d'une salle de cinéma. Et d'ailleurs, le cinéma, c'est un élément très important dans votre livre. Hein. Sans arrêt, il y a des références au cinéma. Donc, c'est vrai que dans une salle de cinéma, c'est une sorte de refuge pour Ève. Elle peut s'extraire d'elle-même.
Bien sûr,
parce qu'elle est très seule quand même.
Elle est enfermée dans sa propre peau. Elle n'a pas accès à la réalité. Quand on n'a pas accès au toucher, on n'a pas accès à la réalité. Et donc le cinéma, les chansons, la lecture sont des endroits où elle peut finalement fantasmer le réel. De la même façon qu'elle fantasme ce personnage qu'elle voit un peu partout, on ne sait jamais si c'est le même ou si c'est un autre.
Oui.
Et donc pour elle, le cinéma est un endroit où elle peut vivre une vie qu'elle est impuissante à vivre dans la réalité. Donc elle se met
dans une salle de cinéma. Alors elle va hésiter. Alors c'est vrai que vous nous replongez au fond dans le passé, dans toute la polémique qu'il y avait eu au moment de la... C'était la dernière tentation du Christ.
Voilà, le film de Scorsese.
Scorsese qui avait fait scandale à l'époque. Alors elle a envie d'y aller, puis finalement elle se dit que non, elle va renoncer.
Il y a la dernière tentation, elle est tentée aussi, et puis finalement les horaires ne concordent pas.
Elle va voir un film américain.
Stormy Monday de Mike Figgis qui jouait. Et en fait, il y a un attentat à ce moment-là. Ouais.
Alors, encore, il y a quand même une sorte de magie qui va s'opérer. Elle est dans la salle. Et d'ailleurs, vous jouez très très bien parce qu'il y a des moments où c'est très tendu, il y a un suspense. Il y a un homme qui entre, une silhouette haute, et il va s'asseoir à côté d'elle. Et c'est vrai qu'il est grand, il est fort et tout son corps prend position du siège.
Donc ça la gêne
parce qu'elle est quand même touchée. Ce sera désagréable pour elle. Elle ne peut plus respirer. Elle suffoque,
absolument.
C'est affreux. Oui. Donc, il y a un moment où elle va se dire que ce n'est pas possible, elle ne peut plus rester. Elle se lève et elle va aller vers une autre place. Et à ce moment-là, il y a une déflagration.
Voilà.
Donc, elle est sauvée.
Elle est sauvée.
Elle est sauvée par cette présence.
Absolument.
Réelle ou pas.
Voilà, réelle ou pas. Voilà. Réelle ou fantasmée, tout le problème est là. Parce que, voilà, d'une manière générale, on peut dire que le problème d'Ève, c'est un peu le problème de la troisième génération. C'est-à-dire qu'elle est l'héritière d'un héritier du génocide. Ouais. Et le traumatisme se transmet d'une génération à l'autre, mais il se transforme. Et donc, elle est un petit peu prisonnière dans une problématique à la fois d'avoir de l'empathie pour la douleur de son père, et en même temps, elle voudrait aussi pouvoir fonder elle-même une famille pour avoir une vie normale. Donc, elle est dans une sorte d'une injonction un peu paradoxale. Elle est coincée. Et
vous décrivez très très bien les moments de coma, de semi-coma, puis elle va se réveiller, elle va partir chez sa mère et finalement c'est sa mère qui va lui donner une valise, qui va lui donner le signe du départ.
Exactement.
Elle est très étonnante cette mère finalement.
Oui, elle est étonnante. C'est une mère qui à un moment donné a jeté l'éponge parce qu'elle se sentait impuissante à soulager la douleur du père et elle a fait quelque chose qui est terrible en soi, c'est-à-dire qu'elle a confié le père à ses filles.
Ouais.
Et quand les enfants se trouvent dans une position où ils ne peuvent plus consoler les parents, ils en conçoivent une culpabilité terrible. Et ça, je crois qu'on le constate assez souvent dans le cas où les parents ont subi des traumatismes importants, ce sont les enfants qui sont culpabilisés. Mmh. Les enfants sont totalement innocents, bien sûr,
mais
ils sont culpabilisés.
Donc elle lui donne le signe du départ.
Voilà.
Et là... Elle veut, et d'ailleurs son amoureux virtuel pour l'instant, platonique, sait que depuis toujours elle est hantée par le mur de Berlin. Alors on est en 88,
dans les derniers mois
avant. Et elle sent qu'elle a une quête là-bas. Il y a quelque chose qu'elle doit chercher. Elle ne sait pas ce qu'elle doit chercher. C'est ça qui est d'ailleurs le plus troublant.
Oui, elle
ne saura... Qu'est-ce qu'elle doit chercher ? C'est très compliqué. Et elle sait qu'il y a un mur à abattre en elle.
Voilà.
Donc elle va partir pour Berlin. Alors déjà, pour avoir un visa, c'est toute une histoire. Mais enfin, elle va se débrouiller pour l'avoir. Et alors là, vous avez dû faire des recherches formidables sur le Berlin de l'époque.
Oui, c'est vrai que j'ai...
Parce qu'on est complètement dans un autre monde.
C'est vrai, le Berlin d'avant la chute du mur, j'ai été à Berlin, et il y a une grande nostalgie des Berlinois de cette époque d'avant. Ils appellent ça eustalgie, donc la nostalgie de l'Est. Et c'est vrai qu'elle a ce mur en elle, mais finalement, Ève, elle se sent enfermée entre quatre murs, quoi. Il y a le mur de Berlin, il y a le mur de sa propre peau, il y a le mur de Jérusalem, parce que évidemment, c'est quelque chose d'important. Et puis il y a le mur du ghetto de Varsovie. Et d'ailleurs, quand elle prend le train pour Berlin, elle voit que ce train, en fait, ne s'arrête pas à Berlin, mais qui va jusqu'à Varsovie. Oui. Et elle se dit, mais je me suis trompée de destination. Pourquoi est-ce que je vais à Berlin ? C'est à Varsovie que je devrais aller.
Et
finalement, non, elle va quand même à Berlin, parce que ce mur debout, qui est un défi, et qui a une importance pour elle, parce que son père était communiste, parce qu'on parlait à la maison, on parlait toujours du rideau de fer. Quand elle était petite, elle pensait que le rideau de fer, c'était Fayre, c'est-à-dire que c'était qu'il y avait quelque chose à faire là-bas.
Ouais, c'était
l'endroit où on faisait quelque chose. Et comme là, elle décide de prendre sa vie en main, elle décide d'agir,
de prendre contrôle de son cœur et de revenir avec peau neuve. Hein,
exactement.
C'est ça, cette idée.
Voilà,
hein.
Oui.
Et alors, quand vous décrivez ça, vous avez retrouvé les traces de l'entrée souterraine dans le monde de l'Est.
Oui,
c'est vraiment une descente aux enfers.
Enfin, exactement, c'est une descente aux enfers.
Vous donnez tout le décor, c'est effroyable. De retour de l'Ouest, les anciens qui ont un accès séparé, de même que les diplomates et les militaires occidentaux, c'est ça ? Il y avait des accès ?
Oui, il y avait des accès séparés. Et effectivement, les gens plus âgés, qui étaient considérés comme potentiellement moins dangereux, avaient un accès privilégié où la queue était moins longue.
Moins longue, c'est terrible. Ouais. Et elle a une porte dans un étroit réduit, il y a un fonctionnaire qui va... finalement la prendre en défaut, la piéger.
C'est vraiment
cauchemardesque, ça, cette traversée
du... Oui, c'est vrai. Elle se met elle-même en danger. D'ailleurs, elle se demande, pourquoi est-ce que je me maltraite comme ça ?
Ouais. Et vous parlez très bien aussi des paysages. C'est qu'on se retrouve avec vous, avec elle, dans un autre monde, quoi, avec le paysage qui est contrasté, les vieilles façades, les façades arrogantes, vous disiez, des bâtiments officiels, les maisons dévastées. C'était ça.
C'est vrai que c'est une ville, à la fois une très belle ville et en même temps une ville
marquée.
Vous avez
retrouvé des témoins ? Comment
vous
avez fait ?
J'ai retrouvé surtout des photographies d'un photographe qui avait pris beaucoup de photographies à l'époque.
Ouais.
Et puis aussi, j'ai recueilli le témoignage d'un journaliste de qui travaillait à l'Est à l'époque, dans un journal communiste, et qui a bien voulu, pour moi... retranscrire ses souvenirs tout en m'expliquant que c'était des souvenirs très douloureux, mais il l'a fait quand même volontiers.
Ouais. Alors, comme dans le cinéma, il va avoir une scène clé à Berlin, donc c'est vrai qu'elle erre, elle ne sait pas. Elle sait qu'il y a un sens à trouver, mais elle ne sait pas tellement comment le trouver.
Absolument.
Et elle va se trouver dans un café, et elle voit un homme qui lui dit comment aller finalement du côté du cimetière, c'est ça. Il va lui donner une route et il lui dit c'est là où je vais retrouver le passage. Elle y mène encore naturellement, elle ne l'atteint plus, elle va jusqu'au mur comme en flânant. Vous devriez y trouver ce que vous cherchez.
Voilà.
C'est étonnant qu'il lui dise vous cherchez. Donc elle essaye de trouver un plan. Elle prend du temps, elle lève la tête et l'homme a disparu.
Et l'homme a disparu, voilà. C'est toujours ce même homme ou un homme différent.
Avec cette voix chaude, posée,
qui
était un personnage totalement étonnant. Et vous dites quelque chose, je trouve, de très fort et de très juste, du fait que quand on se retrouve dans un pays étranger, l'espèce de mal-être qu'on peut ressentir, je vais lire ce passage. L'étranger, le pays étranger, donne souvent le sentiment de ne pas exister à part entière. Quand on n'est pas d'ici, on n'est pas tout à fait. Alors on va sur les traces de ceux qui nous ont précédés. Maisons, quartiers, ghettos ou lieux de culte, on cherche un passé. Les repères glanés au fil des rues prennent un sens détourné. C'est l'idée de Jean, le père. Les pierres délaissées nous aident à penser, parfois même à pleurer. C'est ainsi que petit à petit, au détour d'une fenêtre, au long d'une perspective ou entre deux allées, peu à peu, pas à pas, on appartient. C'est beau, ça, c'est très juste.
C'est vrai que ce sentiment de quand on n'est pas dans son propre élément, et Ève n'est pas dans son propre élément, puisque même dans sa propre peau, elle n'y est pas, elle n'a pas le sentiment d'exister tout à fait, et elle cherche des racines, elle cherche des liens, et elle va chercher ses liens dans ce passé, parce que finalement, nous sommes une génération où les morts sans sépulture n'existent que dans notre imaginaire, et c'est dans cet imaginaire qui, à la fois, la tire vers le passé, mais qui, en même temps, est très riche et qui va finalement lui fournir la solution, qu'elle va chercher son salut.
Mmh. Elle va reconstituer aussi, ça c'est très étonnant, un cercle de dissidents. Elle va être invitée, c'est un monsieur, comment on dit, catalan,
oui.
Qui habite dans une grande maison où il y a beaucoup de gens, dont un informateur.
Hein. Oui, bien sûr.
On sait qu'il est informateur.
elle pose la question, et ça aussi, ce sont des éléments réels. Il valait mieux avoir un informateur que tout le monde connaissait et on savait que c'était un informateur plutôt que de s'en débarrasser, puis de voir arriver ensuite quelqu'un qu'on connaissait pas et qui était beaucoup plus dangereux.
Ouais. Donc lui se mêle à la foule en portant haut son identité d'informateur. Et donc elle ne sait pas très bien d'ailleurs au début comment être avec ces gens-là.
Elle est invitée, elle est
déplacée, et en même temps elle arrive parce qu'elle a une faculté de comprendre les autres.
Oui,
quand même.
C'est vrai.
Tout en étant enfermée. Elle va vers les autres.
Justement, les gens, par exemple, qui sont aveugles, développent l'audition de manière plus importante. Et pour Ève, le fait d'avoir un sens qui est frustré complètement lui fait qu'elle perçoit beaucoup d'autres choses qu'on perçoit plus difficilement normalement. Et donc, quand elle arrive, elle se sent une empathie avec ces Basques espagnols qui ont été communistes et qui ont été emmenés vers l'Est par une opération des services secrets français qui est peu connue, l'opération Bolero Paprika, donc dans des années 50. Et elle se dit finalement, on n'est pas nous les seuls à cultiver la mémoire, on n'est pas les seuls à savoir ce que c'est qu'une famille. Et donc elle ressent une empathie pour ces gens-là qui sont d'une culture complètement différente.
Oui, c'est très intéressant. Et puis donc, tous ces pas vont la mener vers une libération. Hein. Oui. Et la danse en particulier, la danse, elle est salvatrice.
C'est ça, une danse salvatrice qui va d'un seul coup la libérer. Mais au fond, on peut imaginer que quand elle se réveille, la vie, quand on a frôlé la mort, la vie prend une valeur particulière. Je veux dire, on la sent, on la touche, la valeur de la vie. Et enfin, pour moi, elle est déjà guérie quand elle se réveille, mais simplement, elle ne le sait pas.
Elle a une quête à effectuer.
Elle a ce chemin à faire.
Qui est très beau, avec ce chemin qui est toujours quand même dans un brouillard. C'est ça que j'aime dans votre livre, parce que le brouillard reste quand même jusqu'au bout.
Oui, c'est vrai que ce personnage sorti de l'imaginaire, qui est une figure du juif errant, une figure de Libure, qui est en fait le pendant du Dibouk, mais qui est une imprégnation positive, qui fait partie de la mythologie juive, c'est quelque chose de diffus, parce que finalement, je pense qu'on peut se sauver avec son propre imaginaire.
Oui, tout à fait. En tout cas, c'est un très beau livre. Gérald Denamo, une dernière question. Vous venez de Nancy, vous avez fait des signatures à Nancy, comment ça se passe?
Des signatures à Nancy, et une signature à Paris aussi, à la librairie Le Divan, et puis aussi bientôt à la librairie du Temple.
Bon, j'espère que nos auditeurs vont venir vous trouver. En tout cas, lire ce très beau texte, Peau vive, Gérald Tenenbaum, publié à La Grande Ourse. En tout cas, c'est un livre vraiment poétique, singulier, rare, avec une très belle langue. Voilà, je vous le recommande. Puis vous pouvez nous retrouver sur le site de la radio. Et écoutez vos paroles.
Merci.
À bientôt.
Merci.
Au revoir.